Bienvenue pour cette exploration des agents d'intelligence artificielle. On sent un changement assez net en ce moment, non? L'IA, elle ne fait plus que, disons, répondre à des questions comme les systèmes RAG. Là, elle commence vraiment à agir. C'est un peu comme si, avant, on vous expliquait votre contrat d'assurance, et maintenant, un agent pourrait carrément gérer toute la procédure de réclamation de A à Z.
C'est tout à fait ça. En fait, on parle d'agent IA, mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un logiciel qui va s'appuyer sur un grand modèle de langage, un LLM, pour faire des tâches.
Faire des tâches, mais de manière autonome.
Exactement. De manière autonome, il va planifier, il va prendre des décisions, il va utiliser des outils, interagir. La clé, vraiment, c'est sa capacité à piger le contexte, sans qu'on lui donne des règles hyper rigides, et puis à s'adapter, à apprendre un peu en cours de route.
D'accord. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de décortiquer tout ça. On va regarder les différents types d'agents qui existent, essayer de comprendre quand c'est une bonne idée de les utiliser ou pas.
Oui, et puis les outils aussi. Comment on les construit? On parlera un peu de LangGraph, Autogen, CrewAI.
Et le point crucial, comment on les évalue? Parce qu'on entend souvent dire que beaucoup de projets échouent. On va essayer de comprendre pourquoi et comment on peut éviter ça. Allez, on y va. Justement, pour commencer, ce guide agentique.pdf sur lequel on s'appuie, il montre bien qu'il n'y a pas juste un type d'agent. C'est un peu une jungle, non? Comment on s'y retrouve?
Oui, c'est vrai. Ça peut paraître complexe au début, mais on peut les voir un peu comme un spectre, tu vois, avec différents niveaux d'autonomie. Ça part de trucs assez basiques, l'automatisation fixe, un peu rigide, type RPA.
Ok, le truc qui suit des règles très précises.
C'est ça. Puis, tu as les agents qui sont, disons, améliorés par un LLM. Ils comprennent mieux le contexte, mais leur action reste limitée. Après, un cran au-dessus, et c'est là que ça devient intéressant, c'est l'approche React.
React, raisonnement et action, c'est ça?
Exactement, raisonnement plus action. Là, l'agent peut vraiment planifier et exécuter une tâche en plusieurs étapes. Il réfléchit, il agit, il réévalue. Pense à un planificateur de voyage simple, par exemple.
D'accord.
Et si tu rajoutes à ça la capacité d'aller chercher de l'info externe, donc le fameux RAG...
React plus RAG.
Voilà. Là, tu as un agent qui peut faire des recherches plus poussées, genre un assistant pour trouver des textes de loi spécifiques.
Et le guide va encore plus loin, j'ai vu. Il parle d'agents qui utilisent des outils externes, des API, des bases de données.
Oui, les tools augmented, ou même des agents qui sont capables de réfléchir sur ce qu'ils font. Une sorte de métacognition. On parle d'agents autoréflexifs, utiles pour le contrôle qualité, par exemple.
Autoréflexifs, et il y a aussi ceux qui ont une mémoire pour personnaliser sur le long terme.
Tout à fait. Pour le suivi de projet, c'est pertinent. Et on monte encore en complexité avec des agents qui peuvent directement agir sur leur environnement, comme AutoGPT à ses débuts, ou même des agents qui apprennent et évoluent de façon quasi autonome.
Ah oui, là on touche à des choses assez avancées.
Clairement. Cette progression vers plus d'autonomie, c'est le fil rouge. Mais ça pose une question importante. Est-ce qu'on a toujours besoin de ça? Quand est-ce que c'est vraiment justifié d'utiliser un agent IA plutôt qu'une solution plus simple?
Bonne question. Le guide donne des pistes. Il suggère que les agents ils brillent vraiment quand les tâches sont complexes, dynamiques, quand il faut s'adapter un peu tout le temps. On cite des exemples comme le support client, où on veut des réponses rapides et personnalisées, l'analyse de données, quand il y a des volumes énormes à traiter, le trading peut-être aussi, pour des décisions rapides, ou même l'éducation personnalisée.
Oui, ou le développement logiciel, pour automatiser certaines parties du codage ou des tests.
D'ailleurs, il y a une stat de Salesforce qui est assez parlante. 71% du temps des commerciaux serait passé sur des tâches pas commerciales. Ça laisse imaginer le potentiel d'automatisation avec des agents, là.
C'est un potentiel énorme, c'est vrai. Mais attention, il faut aussi savoir raison garder. Le guide le dit bien. Pour une tâche simple, que tu fais une fois tous les tremblements de terre ou qui est déjà bien gérée par un logiciel classique, l'agent, c'est peut-être trop.
Trop complexe, trop cher.
Oui. Et puis, il y a des domaines où l'expertise humaine, l'empathie, le jugement fin, c'est juste irremplaçable. Pensez à un diagnostic médical délicat ou à de la psychothérapie. Là, l'agent, c'est non.
D'accord. Et il y a aussi les contraintes externes, j'imagine. Le budget, la réglementation, si elle est très stricte, la sécurité des données sensibles.
Absolument. C'est pour ça que le guide propose une sorte de checklist, une dizaine de questions à se poser avant de se lancer. Quelle est la complexité réelle? Le volume? Est-ce qu'il y a besoin d'apprentissage continu? Quelle précision on attend? L'humain est-il indispensable au cœur du processus? Et bien sûr, l'analyse coût-bénéfice.
C'est une démarche structurée pour éviter de foncer tête baissée, quoi.
Exactement. Et il y a des exemples concrets? qui montre que ça marche quand c'est bien ciblé. Willy, dans le service client, qui améliore de 40% la résolution de cas. Oracle Health, qui réduit le temps de documentation pour les médecins.
Donc si après réflexion, on se dit « Ok, un agent, c'est la bonne approche pour mon problème », comment on s'y prend? Quels sont les outils? Le document en met trois en avant, c'est ça?
Oui, principalement trois frameworks qui reviennent souvent. LangGraph, Autogen et Crew AI. Ils ont chacun leur philosophie, leur approche.
Alors, LangGraph, c'est quoi sa particularité?
LangGraph, comme son nom l'indique un peu, il voit le workflow de l'agent comme un graphe, un ensemble de nœuds et de liens. Ça donne un contrôle très fin sur les étapes, sur l'état de l'agent à chaque instant. C'est top pour les processus complexes où tu veux vraiment maîtriser comment les choses s'enchaînent.
Ok, contrôle granulaire. Et Autogen?
Autogen, développé par Microsoft, c'est une approche plus conversationnelle. L'idée, c'est de faire discuter plusieurs agents spécialisés entre eux pour résoudre un problème. C'est assez modulaire, flexible. Tu peux définir différents profils d'agents qui collaborent.
Ah oui, comme une équipe d'experts virtuels qui y échangent.
C'est un peu l'idée. Et Crew AI, ça ressemble un peu, mais c'est peut-être plus structuré autour de rôles bien définis, comme dans une vraie équipe projet. Tu as un agent chef de projet, un agent rédacteur, un agent chercheur, chacun a son rôle, ses tâches, et on organise leur collaboration.
D'accord. Donc le choix dépend vraiment du type de problème et du niveau de contrôle ou de collaboration qu'on cherche. LangGraph pour le contrôle fin, Autogen pour la flexibilité conversationnelle, Crew AI pour la collaboration structurée par rôle. C'est ça en gros.
C'est une bonne synthèse, oui. Le guide les compare d'ailleurs sur plein de critères pratiques. Facilité de prise en main, la gestion de la mémoire de l'agent, est-ce qu'il gère bien la sortie structurée, l'accès aux outils externes via LangChain par exemple, la doc.
Et il y a des exemples d'utilisation concrets pour chaque mandol.
Oui, le document mentionne Chaos Labs, qui utiliserait LangGraph pour des marchés prédictifs, Microsoft avec Autogen pour l'optimisation de la chaîne logistique, et Waynabox, qui utiliserait Crew AI pour planifier des voyages personnalisés.
Waynabox, ça c'est parlant. On imagine bien un agent expert en destination, un spécialiste des vols, un connaisseur des préférences clients.
Exactement. Il collabore pour te concocter un voyage sur mesure. C'est une belle illustration.
Bon, on a choisi le cas d'usage, on a choisi le framework, on a construit notre agent. Et maintenant?
Le moment de vérité.
Est-ce qu'il fait bien le job?
L'évaluation.
Le guide insiste énormément là-dessus.
Et il a bien raison. C'est absolument crucial. C'est souvent là que le bas blesse, que les projets dérapent. Parce que c'est pas si simple d'évaluer un agent qui est censé être autonome, justement.
Comment on s'y prend alors? Le guide donne un exemple, je crois.
Oui, il détaille le cas d'un agent de recherche financière. Et ce qui est intéressant, c'est le processus. C'est pas juste on lance et on regarde. C'est itératif. D'abord, bien définir le problème. Puis, construire une première version de l'agent, souvent un React. Ensuite, le faire tourner sur des cas réels ou simulés.
Et après, comment on juge?
Le rôle de juge LLM. Cet agent juge va évaluer la qualité de la sortie de l'agent travailleur. Est-ce que la réponse est pertinente? Est-elle complète? Est-ce qu'elle cite ses sources?
Ah, on utilise l'IA pour évaluer l'IA en quelque sorte.
Exactement. Et en parallèle, on utilise des outils d'observabilité, comme Galileo, qui est cité dans le guide, pour suivre des métriques plus techniques. La latence, le coût en token, est-ce que l'agent reste bien dans le contexte qu'on lui a donné?
Donc, l'évaluation, c'est pas juste une note à la fin. C'est un processus continu qui permet d'améliorer l'agent.
C'est tout l'intérêt. L'évaluation met le doigt sur les faiblesses. Par exemple, dans leur cas financier, l'agent avait du mal à trouver des données anciennes. Grâce à l'évaluation, ils ont compris qu'il fallait améliorer la partie recherche d'informations. Peut-être affiner les prompts ou la manière dont l'agent accède aux bases de données. C'est un cycle. Construire, mesurer, apprendre, améliorer.
D'accord. Et au-delà de cet exemple, le guide propose des métriques plus générales, j'imagine.
Oui. Il les regroupe en quatre grandes dimensions. D'abord, l'efficacité technique. Est-ce que le LLM sous-jacent fait beaucoup d'erreurs? Combien de tokens ça consomme? C'est le côté mécanique.
Ok.
Ensuite, la complétion de la tâche. Est-ce que l'agent arrive au bout de ce qu'on lui demande? Combien de fois il a besoin qu'un humain intervienne? Ça mesure son autonomie réelle.
Logique.
Troisième axe, le contrôle qualité. Est-ce que le résultat final est dans le bon format? Est-ce qu'il est fiable? Et enfin, l'interaction avec les outils. S'il doit utiliser une API ou une base de données, est-ce qu'il choisit la bonne? Est-ce qu'il l'utilise correctement?
C'est assez complet comme grille d'analyse. Ça permet de vraiment cerner où sont les problèmes. Et malgré tout ça, le guide dit que beaucoup d'agents échouent. Pourquoi ? C'est quoi les pièges les plus courants ?
Les défis sont un peu à tous les étages, malheureusement. Déjà pendant le développement. Parfois, la tâche ou le persona de l'agent sont mal définis au départ. Ou alors, l'évaluation est négligée, on y revient. Ensuite, il y a les problèmes liés au LLM lui-même. Ils sont parfois difficiles à piloter finement. Ils peuvent halluciner, faire des erreurs de raisonnement, mal comprendre comment utiliser un outil. Et puis, il y a le coût des appels API qui peut vite grimper.
Et une fois qu'on passe en production, j'imagine que de nouveaux problèmes apparaissent.
Ah oui. Le manque de garde-fous robustes. Sécurité, éthique, éviter que l'agent fasse n'importe quoi, les questions de passage à l'échelle, scalabilité, la gestion des pannes et le risque de voir l'agent partir en boucle infinie. C'est pas trivial à gérer.
Ça fait beaucoup de défis quand même. Mais j'imagine qu'il y a des pistes de solutions.
Heureusement, oui. Le guide en évoque plusieurs pistes. L'importance d'avoir des prompts très clairs et bien définis, de faire de l'évaluation continue, de concevoir des architectures d'agents peut-être plus hiérarchiques ou modulaires, de décomposer les tâches complexes en sous-tâches plus simples.
Utiliser des modèles plus petits et spécialisés peut-être aussi.
Oui, ça peut être une piste pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité sur des tâches précises. Et bien sûr, mettre en place des mécanismes de contrôle, de validation humaine à certains points critiques, et construire des systèmes résilients qui savent gérer les erreurs.
Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on voit, c'est que les agents IA, c'est clairement une évolution majeure. On passe de l'IA qui informe à l'IA qui agit. Il y a une grande variété d'agents, du plus simple au plus complexe, et le choix du bon type d'agent, du bon cas d'usage et du bon framework, c'est vraiment déterminant pour le succès.
Oui, et si je devais retenir quelques points clés de cette discussion et du guide, ce serait primo, l'évaluation. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue et elle doit être continue. Secondo, les défis sont réels et nombreux, que ce soit en conception, en coût, en fiabilité en production, mais les outils et les méthodes s'améliorent vite.
Et le troisième point ?
Tertio de succès, il vient rarement du premier coup. C'est une démarche itérative. On définit, on construit, on mesure, on apprend, on ajuste et on recommence. Il ne faut pas avoir peur de tâtonner un peu.
Donc, au final, on peut dire que le potentiel des agents IA est immense, c'est clair, mais ça demande une approche d'ingénierie qui est sérieuse, rigoureuse et une vigilance de tous les instants. C'est loin d'être de la magie plug and play.
Exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée, peut-être un peu pour ouvrir la réflexion. Si ces agents deviennent de plus en plus capables d'agir, d'apprendre par eux-mêmes, de manière de plus en plus autonome, comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement l'automatisation des tâches, mais peut-être la nature même de la collaboration entre nous, les humains, et les machines intelligentes dans les années qui viennent ? Ça pose des questions assez fondamentales, non ?